Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Emmanuel Macron a enchaîné les consultations ce lundi à la Lanterne, résidence présidentielle à Versailles. Dans un instant, l'agenda du président réélu. Marine Le Pen sera candidate à sa réélection pour les législatives. La perdante du second tour a réuni les cadres du RN pour écrire la suite. Tandis qu'à gauche, les insoumis et les socialistes vont se parler mercredi dans l'espoir d'une alliance. Garde à vue pour le policier qui a tué deux automobilistes la nuit dernière en plein Paris. Le fonctionnaire interrogé par la police des polices. Les victimes seraient liées à une affaire de stupéfiants. C'est officiel, Elon Musk se paye Twitter. Il signe un chèque de 44 milliards de dollars. Détail à suivre avec Didier Hamot. La météo demain, ce sera du beau temps sur le littoral et un peu de pluie dans le nord-est. Et puis au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, je recevrai à 22h15 Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État socialiste. Elle a cofondé un nouveau parti qui se veut l'aile gauche de la Macronie. Et puis juste avant la libre antenne, coup d'œil aux unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Emmanuel Macron a donc passé ce lendemain de réélection à la résidence présidentielle de la Lanterne, voisine du château de Versailles. Toute la journée, Arthur Delaborde, le chef de l'État, a enchaîné les entretiens.
Oui, d'après nos informations, il a notamment eu ses deux prédécesseurs au bout du fil. Il a évoqué ce matin les conséquences politiques du scrutin et les enjeux des mois à venir avec Nicolas Sarkozy. Hier soir, il a également parlé un quart d'heure avec François Hollande. Le chef de l'État consulte aussi son cercle rapproché en vue de la constitution de son futur gouvernement. Il a par exemple échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Mais dans l'entourage du président, on souligne qu'il décidera tout seul qui sera son premier ministre. Seule certitude pour le moment, la nouvelle équipe ne sera pas connu cette semaine. L'Élysée précise que tout est possible entre lundi prochain, le 2 mai, et le vendredi 13 mai, date limite à laquelle la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron peut avoir lieu. Enfin, s'agissant de son programme dans les jours qui viennent, peu d'éléments sont connus. Un conseil des ministres est attendu ce mercredi. Un hommage national à l'acteur Michel Bouquet doit se tenir également mercredi dans l'après-midi à l'hôtel des Invalides. Emmanuel Macron souhaiterait ensuite effectuer au moins deux déplacements, un premier à Berlin et un second dans un hôpital militaire pour se rendre auprès de soldats blessés.
Arthur Delaborde, Emmanuel Macron a également échangé au téléphone ce lundi avec Joe Biden. Le président américain l'a félicité pour sa réélection. Du soulagement, mais de la frustration, parfois de la colère, les sentiments se percutent dans l'esprit de toutes celles et ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron par adhésion. Mais pour faire barrage à Marine Le Pen, le chef de l'État sait bien qu'il doit aussi sa réélection à cette partie de l'électorat. Leur vote m'oblige, c'est ce qu'il a glissé dans son discours d'hier soir. Alors qu'attendent ces électeurs du second quinquennat? Zoé Pallier leur a posé la question dans l'Est parisien.
Un soupir de dépit, voilà ce qu'inspirent les promesses d'Emmanuel Macron aux électeurs de gauche. Jeanne, une mélenchoniste de 20 ans, lève même les yeux au ciel.
Je pense que c'est surtout de la communication qui nous a brossé dans le sens du poil, qui va pas respecter ce qu'il dit, mais on verra.
Quelle promesse, par exemple, qui serait important qu'il tienne?
Il a évoqué le fait de prendre un premier ministre chargé de l'écologie, ce serait bien.
Assise en tailleur au bord du canal Saint-Martin, Charlie dit-elle aussi attendre le président réélu au tournant, après avoir voté pour lui hier, sans grand enthousiasme.
Sur certains sujets, plus que d'autres, j'ai un peu d'espoir. Tout ce qui est LGBT ou même le féminisme, j'en ai aucun. L'environnement, je me dis que là, il est obligé de vraiment le prendre en compte.
Théo, lui, veut bien croire à une rupture avec le quinquennat précédent, à condition d'en avoir très rapidement quelques preuves.
Il faut voir aussi comment ils vont remanier le gouvernement vers les personnalités qu'il va remettre en place, parce que pour l'instant, il y a quand même pas mal de personnalités de droite.
Tous attendent en tout cas bien davantage d'une potentielle victoire de la gauche aux législatives que de la politique d'Emmanuel Macron dans les 5 prochaines années.
Zoé Pallier, Lionel Jospin dit aussi son soulagement et son inquiétude dans un entretien aux Parisiens. L'ancien Premier ministre socialiste estime qu'Emmanuel Macron a joué avec le feu, faisant tout, dit-il, pour que se reproduise le face-à-face avec l'extrême droite. Faute de destin présidentiel, Marine Le Pen sera bien candidate à sa réélection aux législatives. L'écart entre les deux finalistes de la présidentielle s'est considérablement réduit par rapport à 2017. 41,5% des voix pour Marine Le Pen, qui est arrivée en tête dans 30 départements contre 2 il y a 5 ans. Cet après-midi, Victor Chabert, elle a réuni les cadres du RN.
Oui, Marine Le Pen a présidé cet après-midi les bureaux nationaux et exécutifs du Rassemblement national. Les cadres ont débriefé les résultats. Selon un participant, les objectifs fixés sont remplis. Des résultats historiques avec près de 42% des voix et l'image de Marine Le Pen qui s'est considérablement améliorée avec cette campagne. Cap désormais sur les législatives, le RN présentera des candidats sur toutes les circonscriptions et pas d'union avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, a bien précisé le président du RN, Jordan Bardella.
La manière qu'a Éric Zemmour d'aborder cette demande en mariage est extrêmement virulente, extrêmement brutale, je trouve. Et je trouve qu'il a eu des mots assez durs avec Marine Le Pen, alors même qu'elle est positionnée comme leader incontestable de l'opposition. Je pense qu'il doit d'abord la reconnaître comme leader de l'opposition.
Même si Éric Zemmour multiplie les appels du pied pour une union, sa phrase d'hier soir sur les 8 défaites associées au nom de Le Pen à la présidentielle est très mal passée. Cependant, il y aura peut-être des accords individuels autour de personnalités de Reconquête. Quant à l'avenir de Marine Le Pen, elle va se représenter sur sa circonscription du Pas-de-Calais, mais ne devrait pas reprendre la présidence du parti pour le moment.
Victor Chabert, pour l'opposition, cet objectif législatif, le RN donc, et les Insoumis, vous avez déjà entendu cet appel de Jean-Luc Mélenchon à l'élire Premier ministre. Le troisième homme et ses fidèles rêvent d'un troisième tour victorieux à l'occasion des prochaines législatives. L'ex-candidat Insoumis s'imagine déjà propulsé à Matignon, ses soutiens y croient, comme l'insoumise Katia Yacoubi, l'animatrice de la campagne des législatives à Marseille, souhaite imposer une cohabitation à Emmanuel Macron.
On va y arriver. Le troisième tour, on peut finir premier.
Parce que sinon, c'est 5 ans de perdu pour l'écologie et pour le social. Donc il faut l'imposer. Et nous avons ce travail-là à faire. Et nous pouvons le faire. L'idée, c'est que Mélenchon soit le Premier ministre et qu'on ait une majorité à l'Assemblée pour faire de notre programme une réalité. Dans les quartiers populaires, dans les Outre-mer, dans la ruralité aussi, on a explosé les scores. Donc nous pouvons le faire. On peut viser carrément 11, 12, 13 millions de personnes qui peuvent se retrouver autour de notre programme et de nos candidats de combat qui défendront donc le programme L'Avenir en commun. Nous, on est pour l'Union, on l'a toujours été, sauf qu'on veut que ce soit fait autour d'un vrai projet de rupture.
Katia Yacoubi avec Stéphane Burgat, la France Insoumise et le PS doivent se rencontrer ce mercredi en vue d'une possible alliance aux législatives. Pas d'état de grâce donc pour ce second quinquennat. Cette présidentielle a mis en évidence un paysage politique éclaté. Des blocs antagonistes se font face. Alors comment Emmanuel Macron va pouvoir gouverner ? Le paysage politique apparaît pour l'instant fracturé, Jacques Sauré.
Oui, car trois blocs ont tout pulvérisé. Le bloc central d'Emmanuel Macron, le bloc national de Marine Le Pen et celui de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Trois blocs qui n'ont rien en commun, symptôme d'une France fracturée comme jamais. Les électeurs d'Emmanuel Macron sont âgés, habitent dans les villes et gagnent pour la plupart d'entre eux plus de 2 500 € par mois. De l'autre côté, les électeurs de Marine Le Pen, plus populaires, plus jeunes, habitent dans les villes moyennes et les campagnes et gagnent moins de 2 500 € par mois. Alors maintenant, la question qui se pose pour Emmanuel Macron, c'est comment gouverner dans cette France triplement divisée. Le président réélu doit désormais composer avec les 16 électeurs du second tour allant de Jean-Luc Mélenchon aux Républicains et éviter le grand écart. Un défi pour le chef de l'État qui a promis, sans en dire plus, une révolution dans la pratique du pouvoir. Mais concrètement, certaines limites apparaissent déjà, comme avec cette sortie du ministre de l'Économie. Bruno Le Maire déclarant ce matin, par exemple, qu'il ne pouvait pas donner la garantie qu'il n'y aura pas de 49-3 pour la réforme des retraites. La nouvelle méthode ne semble pas encore totalement définie.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Deux automobilistes ont été tués dans une intervention de police la nuit dernière en plein Paris. Le policier à l'origine de ces coups de feu mortels est en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. Le conducteur du véhicule aurait tenté d'échapper à un contrôle en fonçant sur les policiers. William Bollinier, les enquêteurs étudient maintenant la piste d'un refus d'obtempérer motivé par une affaire de stupéfiants.
Oui, c'est en tout cas la version des policiers qui ont contrôlé ce véhicule. Le conducteur et le passager étaient défavorablement connus des services de police. Selon nos informations, pour trafic de stupéfiants, vol ou encore proxénétisme aggravé, ils avaient 25 et 31 ans. La police des polices interroge l'auteur des tirs pour déterminer les conditions dans lesquelles il a fait usage de son arme, un HK-G36 fusil d'assaut en dotation dans les services de police depuis les attentats de 2015. Toute la question est de savoir si le policier était en état de légitime défense. Est-ce que sa vie ou celle d'un de ses collègues était directement menacée par le conducteur du véhicule ? Ces déclarations vont être confrontées aux bandes de vidéosurveillance du quartier où il y a des caméras en nombre, puisque la scène s'est déroulée à deux pas de la cour d'appel et du siège de la BRI parisienne. Un troisième homme, passager arrière inconnu des services de police, a été blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il va donc pouvoir être interrogé par l'inspection générale de la police nationale.
William Molinier, la maire socialiste de Canteleu, près de Rouen, mise en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. Mélanie Boulanger, également placée sous contrôle judiciaire. L'élu avait été placé en garde à vue à l'automne dernier dans le cadre d'un coup de filet anti-drogue avant d'être remise en liberté. C'est l'un des pires accidents de train en France. Le procès de la catastrophe de Brétigny s'est ouvert ce lundi, 9 ans après le drame, en plein été 2013. Le déraillement d'un corail en gare de Brétigny-sur-Orge avait fait 7 morts et des centaines de blessés. La SNCF, SNCF Réseau ainsi qu'un cadre cheminot sont jugés pour homicide volontaire dans ce procès hors norme, Gladys Laffitte, procès avec de très nombreuses parties civiles.
Ah oui, l'audience a d'ailleurs commencé dans une salle pleine avec l'appel des victimes par la présidente, très délicate. Il a duré plus d'une heure, 435 noms ont été égrenés. À chaque fois, les victimes ou leurs avocats se sont approchés à la barre pour confirmer leur identité. Et pour chacune des 7 personnes décédées, ce sont des groupes de proches qui se sont levés, des hommes et des femmes qui ont perdu un père, une cousine, une petite amie dans la catastrophe, parfois très impressionnée face au tribunal. Il faut dire que le procès est très attendu, en 9 ans après les faits, aussi par la SNCF qui est mise en cause. Maître Emmanuel Marcini est l'avocat de la société.
C'est un procès important pour la SNCF qui attend également ce procès depuis de nombreuses années. Jamais, jamais, au regard des difficultés rencontrées, la sécurité n'a été en jeu et c'est ce que la SNCF va démontrer au cours de ce procès.
À l'époque, Guillaume Pépi, l'ex-patron du groupe, avait reconnu la responsabilité de la SNCF. Il doit témoigner jeudi à la barre. Cette responsabilité est-elle pénale? C'est le tribunal qui le dira. Il a 8 semaines pour juger.
Gladys Laffitte au tribunal correctionnel d'Evry. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir bombardé un village russe. Le gouverneur de la région de Belgorod affirme que l'attaque a fait 2 blessés parmi les civils. J'ajoute cette déclaration il y a quelques instants de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui affirme que Moscou va poursuivre les négociations de paix avec Kiev, tout en accusant l'Ukraine de faire semblant de discuter. Sergueï Lavrov met en garde contre le danger réel, dit-il, d'une troisième guerre mondiale. Cette fois, c'est fait. Le milliardaire Elon Musk a mis la main sur Twitter. Le réseau social a accepté son offre à 44 milliards de dollars. On en reparle dans quelques instants sur Europe 1 avec Didier Hamot dans Top à Wall Street. La nouvelle doyenne de l'humanité, elle est française. Il s'agit d'une religieuse. Sœur André a 118 ans. Elle était déjà la doyenne des Français depuis ces 5 dernières années. Mais avec la mort d'une Japonaise, d'un an son aînée, Sœur André devient donc l'aînée de près de 8 milliards de terriens. Arthur Pereira.
Oui, Lucille Randon est née le 11 février 1904, au tout début du XXe siècle à Alès, au nord de Nîmes. Après avoir été gouvernante, elle est entrée dans les ordres et c'est dans sa maison de retraite à Toulon qu'elle a appris qu'elle était désormais la doyenne de l'humanité. Une nouvelle que lui a annoncée David Tavella, son attaché de presse, car oui, à 118 ans, Sœur André a même un attaché de presse.
Elle a eu une réaction très calme, comme d'habitude. Elle a eu une pensée pour sa famille et également pour celles et ceux qui s'occupent d'elle au quotidien à la maison de retraite. Ça lui fait plaisir parce que c'est très bien qu'avec ces annonces, elle va avoir de la visite, de l'attention. On va parler avec elle et ça, elle l'apprécie énormément.
Et Sœur André compte marquer un peu plus l'histoire. Elle espère battre le record de longévité détenu par Jeanne Calment.
Dès qu'on parle de Jeanne Calment, elle me dit « Ah, 122 ans, c'est encore à ma portée. » C'est ce qui fait qu'elle est attachante.
Alors, elle n'est pas officiellement doyenne de l'humanité selon le Guinness Book, l'organe qui répertorie tous les records du monde. Mais pour Laurent Toussaint, expert des personnes centenaires, cela ne fait aucun doute.
Sœur André est une personne dont on suit depuis qu'elle a 807 ans. Elle est doyenne des Français depuis 45 ans et vice-doyenne de l'humanité depuis 3-4 ans environ. Forcément, quand la doyenne de l'humanité décède, c'est sa vice-doyenne qui prend sa place.
Comme à son habitude, Sœur André célébrera son nouveau titre avec un petit verre de Porto, sa boisson favorite.
Voilà, merci Arthur Pereira. C'était aussi ça, je crois, l'un des secrets de Jeanne Calment, toujours évidemment avec modération. Le TFC joue ce soir sa montée en Ligue 1 face à Niort. Le match compte pour la 35e journée de Ligue 2. En 4 victoires, ce serait le retour des Toulousains dans la cour des grands. Patrick Anselmetti, est-ce que c'est pour ce soir?
Eh bien, pour l'instant, les Toulousains sont en Ligue 1 puisqu'ils mènent 1-0. Un but marqué par le capitaine de Toulouse, le Belge De Jager, à la 21e minute de jeu. Il a repris du plat du pied un centre centre venu de la gauche de Silla. Mais ce score ne reflète pas la physionomie du match, car il pourrait y avoir 3 ou 4-0 pour Toulouse. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Les vagues offensives toulousaines se succèdent à un rythme effréné avec des frappes de Van den Bommel, de Spering, de Jaguerre. À nouveau, lui aussi, ils ont tous eu des occasions. Mais en face, il y a le portier niortais Mathieu Michel qui fait un match pour l'instant incroyable. C'est lui qui évite à son équipe de sombrer plus encore. Donc c'est vrai que les Toulousains ne sont pas à l'abri d'un contre niortais. Donc il faut quand même marquer ce deuxième but. Mais pour l'instant, c'est bien parti. Ils sont poussés en plus par 25 000 supporters déchaînés. Et donc après 67 minutes de jeu, Toulouse est en Ligue 1 puisqu'il mène 1-0.
Patrick Anselmetti en direct du Stadium de Toulouse pour Europe 1. En Ligue 1, cette fois, Saint-Étienne va jouer son dernier match à domicile à huis clos. Sanction annoncée par la Ligue de football professionnelle après les incidents de samedi lors du match contre Monaco. La rencontre a été longuement interrompue à cause de jets de fumigène. Tout de suite, la météo.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
Le temps pour ce mardi, voyons cela avec vous Marlène Duret, on va avoir quelques averses dans le nord-est.
Oui Alexandre, alors demain matin les averses se cantonneront à l'Alsace, au Jura, à la Haute-Savoie. Et puis l'après-midi, on va les retrouver entre la Lorraine et l'Alsace, accompagnés de petits coups de tonnerre possibles. Les Alpes et le relief pyrénéen pourraient bénéficier aussi d'une petite averse. Et partout ailleurs, le temps restera sec, plus ou moins ensoleillé. Alors les éclaircies ne seront généralement pas durables et pourront s'agrémenter même de brumes et brouillards le matin, des terres Normande, au Grand Est, en passant par l'Île-de-France et la Picardie, mais aussi en Franche-Comté, sur la partie nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'en Charente-Maritime. Et puis, dans l'après-midi, le soleil l'emportera largement par l'ouest, hein, en Poitou-Charente, dans les Mousins, en Auvergne-Rhône-Alpes, après une matinée donc plutôt nuageuse. Il fera beau près des côtes de la Manche, vraiment dans les départements côtiers, sauf sans doute dans le nord-est de la Bretagne, et puis sur une moitié sud, voilà. Et puis on notera peut-être allez, quelques plaques de grisaille qui peuvent surgir comme ça très localement sur la Côte d'Azur. Les températures maximales, eh bien, elles seront sensiblement identiques à celles de cet après-midi. 13 degrés attendus à Dunkerque, nous aurons 14 à Morteau dans le Doubs, 15 à Lille et Strasbourg, 16 à Belfort, 18 à Moulins, Paris, Dijon, 19 à Angers, Poitiers, Annecy et Grasse, 20 degrés à Groix, 22 à Toulouse, 23 à Bordeaux, Bayonne, à Istres et Avignon.
Encore de belles températures printanières, Marlène, on fera un nouveau point météo avec vous à minuit sur Europe 1.
Avec plaisir.
Europe 1,
Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street avec Didier Hamo. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Wall Street qui débute la semaine avec cette confirmation. Hein, Elon Musk rachète donc Twitter.
Oui, et ça s'agite évidemment à Wall Street avec un Nasdaq en hausse finalement d'1,29% ce soir. Oui, c'est la grande nouvelle du jour. Avec Twitter qui a été suspendu de cotation à 51,70$ en hausse de 5,6%, Elon Musk, le patron de Tesla qui avait pris 9% du capital du groupe il y a quelques jours, va donc mettre la main sur le réseau social pour 44 milliards de dollars, soit 54,20$ par action. Le milliardaire américain a eu gain de cause auprès des actionnaires historiques. Elon Musk veut voir Twitter redevenir un espace de liberté avec moins de modération. De quoi évidemment relancer les rumeurs d'un grand retour de l'ancien président américain Donald Trump, banni du réseau social. On s'en souvient, c'était dans la foulée de l'assaut du Capitole par ses partisans, c'est en janvier 2021. Évidemment, ça fait s'agiter tout le secteur des valeurs de technologie ce soir à Wall Street. Le Dow Jones en profite aussi, il remonte de 0,7% à 34 049 points ce soir.
La Bourse de Paris, elle a continué de reculer, elle est en repli de 2%.
Oui, ça ne s'est pas bien passé, toutes les places financières étaient en forte baisse en Europe. Moins 2%, 6 449 points. La raison, eh bien, c'est encore cette tension sur les taux. Avec la remontée de l'inflation, avec des confinements qui se prolongent en Chine aussi, ça fait chuter le pétrole sous les $100 le baril. Ça a souffert pas mal sur le luxe, avec des replis de 3,5% à 4,5% sur Kering, sur Hermès, sur LVMH. Et puis évidemment, les valeurs pétrolières dans le sillage du baril, eh bien ça baisse avec Total moins 4%, CGG moins 5%, Technip moins 6% et Vallourec qui perd 8% à 10,56€. Le pétrole ce soir sous les $100, le baril à $99,12 exactement.
L'exception du jour, Didier, c'est Ubisoft qui flambe encore sur de nouvelles rumeurs d'opérations financières.
Une forte hausse, oui, de près de 10%, 42 euros Ubisoft. Plusieurs sociétés d'investissement, dont KKR l'américain, s'activeraient pour acheter le groupe de jeux vidéo français. Le secteur des jeux vidéo continue de se concentrer à grande vitesse, en particulier depuis le rachat récent d'Activision Blizzard par Microsoft. Et donc Ubisoft grimpe de 9,5% exactement, 42 euros ce soir à la clôture. Ailleurs, les autres places financières sont en baisse, en nette baisse. Donc le DAX à Francfort, moins 1,5% avec Bruxelles. Madrid, moins 1%. Milan a même perdu 3,6%. Et donc, le CAC 40 en baisse de 2,01%, 6 449 points.
Merci Didier Hamot.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
22h20 sur Europe 1. Emmanuel Macron restera donc 10 ans à l'Élysée. Après avoir fêté sa victoire hier, le chef de l'État a préparé ce lundi son second quinquennat à la résidence de la Lanterne à Versailles. Il peut compter dans cette France divisée sur le soutien en tout cas d'un nouveau parti politique, Fédération Progressiste, fondé juste avant le premier tour et dont vous êtes la cofondatrice. Bonsoir Juliette Méadel.
Bonsoir.
Vous venez donc de la gauche, vous avez été porte-parole du PS, secrétaire d'État à l'aide aux victimes sous François Hollande. Avec cette Fédération Progressiste, vous apportez votre soutien à Emmanuel Macron. Vous représentez donc l'aile gauche des marcheurs. C'est quoi? C'est un courant? C'est un parti à part entière, Fédération Progressiste?
C'est de la Fédération Progressiste, c'est un mouvement d'élus de gauche, dont beaucoup viennent du Parti Socialiste. Moi, je n'ai plus ma carte depuis 3 ans, mais nous sommes tous issus de ce Parti Socialiste qui est un parti réformiste, un parti progressiste, qui est là où Jaurès l'avait installé, là où Mitterrand l'a prolongé, là où François Hollande aussi l'a développé. Et ce parti, aujourd'hui, n'existe plus. Donc, comme nous, nous reconnaissons dans une large partie du bilan d'Emmanuel Macron, mais aussi dans les grandes orientations de son projet, nous le soutenons et nous avons constaté d'ailleurs que le score qu'il a réalisé hier, qui est un score quand même de 58,5, est un très beau score, avec une élection qui est en fait un exploit parce qu'on n'a jamais connu dans la Ve République un président qui se soit fait réélire à ce niveau-là et sans cohabitation avec en plus une crise grave. Alors je vous le dis, ça peut paraître comme ça, vous allez me dire « Oh là là, c'est flagorneur ». Mais en fait non, moi j'écoute depuis ce matin la radio, la presse, et j'entends des commentaires ahurissants, comme si celui qui avait gagné, en réalité, n'avait pas si bien gagné que ça. Alors évidemment, on a une abstention, et c'est ça le sujet important dont je voulais aussi vous parler aujourd'hui, on a une abstention inédite.
Est-ce que vous pensez justement que l'abstention est bien prise en compte par les responsables politiques? On n'a pas toujours le sentiment que c'est le cas, que le camp d'Emmanuel Macron, mais pas seulement, a pris toute la mesure de ce phénomène. C'est un record depuis 1969, ce niveau d'abstention.
C'est un record, mais la tendance, elle est entre 2007 et aujourd'hui, effectivement, vous avez raison de le dire, on est passé de 16 à 26% d'abstention. Donc en fait, il y a une augmentation constante de l'abstention. Et je crois qu'en fait, ça engage une réflexion pour tous les Français et tous les gouvernements depuis effectivement les années 60. Comment on fait pour lutter contre l'abstention qui est un problème grave parce qu'elle dit le désintérêt des citoyens pour la chose publique alors qu'en fait l'avenir se joue maintenant et encore plus alors qu'on va avoir à faire face à des crises écologiques graves alors qu'il y a une crise internationale où je vous rappelle qu'il y a quand même encore 2 mois on avait quand même la crainte d'avoir une guerre en Europe. Donc nous avons des crises qui sont graves, qui sont mondialisées.
On entend encore ce soir les déclarations de Sergueï Lavrov qui mettent en garde contre un risque de troisième guerre mondiale.
Mais absolument. Et donc, face à ça, on a une abstention qui monte. Donc il faut résoudre ce problème. Il y a plein de solutions sur la table. Et d'ailleurs, le président de la République a annoncé qu'il allait faire des réformes institutionnelles majeures. Il faut que tout le monde s'y attaque. Parce que moi, je crois en la démocratie. Et je crois que quand la démocratie recule, c'est nos libertés, notre vie quotidienne qui se détériore. Je suis un peu inquiète, hein, pour ne pas vous cacher, de voir que les deux autres partis qui aujourd'hui structurent la vie politique, hein, à côté de celui du président de la République, donc l'extrême gauche, enfin Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, contestent l'élection. Alors qu'on a un président de la République qui commence son meeting en respectant ses adversaires.
Les mots de Jean-Luc Mélenchon hier soir, Emmanuel Macron, le président le plus mal élu de la Ve République.
Ce qui est...
En référence aux abstentionnistes notamment.
Non mais attendez, c'est absolument faux. C'est-à-dire qu'en fait, il fait référence à son score en pourcentage des inscrits. Donc le président de la République a été élu avec 38,5% des inscrits. Je rappelle que François Hollande a été élu avec 39% des inscrits, que Jacques Chirac l'était aussi à 39,4%. Donc vous voyez bien que c'est l'épaisseur du trait. Mais ce qui est important, c'est que le président a été réélu au premier tour, il fait 1 million de voix de plus qu'en 2017, alors que Jean-Luc Mélenchon n'en fait que 600 000. Donc vous voyez, celui qui critique la légitimité est mal passé pour le faire.
Comment vous voyez votre rôle au sein de... Alors, on ne peut pas encore parler de majorité présidentielle, les législatives nous le diront, mais comment vous percevez-vous votre rôle dans le camp présidentiel? Est-ce que vous allez être la gardienne, justement, des venant de la gauche, des gages qu'Emmanuel Macron a pu donner sur sa gauche dans l'entre-deux-tours, sur l'écologie notamment, vous en parliez il y a quelques instants, Juliette Nadel?
Je crois que notre volonté avec François Rebsamen et avec beaucoup d'autres amis, notre volonté c'est de contribuer, d'aider. Parce que vous voyez, ce qui m'inquiète, c'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Ce qui m'inquiète, c'est que dans 5 ans, il y a quand même un risque d'avoir au pouvoir un parti qui, à mon sens, n'est ni républicain ni démocratique. Et j'adresse cette critique aux Insoumis comme au Front National. Je trouve qu'il y a dans ces deux partis qui structurent la vie politique des ferments de contestation du régime démocratique et je trouve ça très inquiétant. Donc notre but...
Y compris chez les Insoumis.
Y compris chez les Insoumis. Les déclarations des Insoumis qui contestent l'élection présidentielle aujourd'hui, c'est une insulte aux Français qui se sont déplacés pour voter. Je ne dis pas que 58% des Français ont adhéré au vote, mais je dis que 58,5% des Français sont venus mettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne et qu'une partie d'entre eux, non négligeable, l'a fait aussi par adhésion, comme le montre le score du premier tour. Mais je passe la parenthèse. Qu'est-ce qui compte maintenant? C'est qu'on arrive à revivre ensemble, c'est-à-dire à refaire adhérer tous les Français à notre système démocratique. Et donc pour ça, il faut réformer les institutions et deuxièmement, il faut s'occuper des classes populaires, s'occuper de cette majorité écrasante d'ouvriers et d'employés qui ont mis un vote, un bulletin Le Pen, à titre de protestation. Il y a quelque chose qui s'est rompu avec eux depuis des dizaines d'années en réalité, et il faut s'occuper d'eux, les écouter. C'est à ça que doit servir notre engagement au sein de la Fédération progressiste.
Alors certaines réformes annoncées par Emmanuel Macron sont quand même assez éloignées des convictions de gauche. Si on prend la retraite à 65 ans, si on prend les contreparties demandées en échange du versement du RSA, est-ce que ce sont des réformes que vous allez défendre, Juliette Médel?
Moi je note qu'il y a eu une inflexion du président de la République entre le premier et le second tour sur la retraite, notamment parce que beaucoup ont dit et ont exprimé que 65 ans, c'était trop tard, c'était un âge légal sur lequel il fallait travailler, le président a donc ouvert sur 64 ans, il a ouvert sur la question de la pénibilité, il s'est engagé sur la planification écologique, donc il y a quand même eu une véritable écoute dans le cadre de la préparation du second tour de l'élection. Et je suis convaincue, et moi je souhaite travailler, aider, contribuer à faire en sorte que les 5 prochaines années, avec le président de la République, soient des années gagnées pour la France et les Français.
On entend justement votre fibre, en tout cas écologiste. Est-ce que vous saurez rappeler à Emmanuel Macron ses engagements au cours de ce quinquennat?
Écoutez, je crois que le président de la République s'engage en ayant une lecture aussi du résultat de ces élections présidentielles. Moi, j'ai été très frappée par ce qu'il a dit hier soir, en s'adressant à l'électorat de la gauche et en disant que ce vote l'obligeait. Il le sait très bien. Il vient aussi d'un gouvernement.
Ce qui doit au vote de barrage,
vous voulez dire. Il vient aussi d'un gouvernement de gauche social-démocrate. Il y a dans son bilan des mesures, par exemple, sur le dédoublement des petites classes dans les zones sensibles en matière éducative. Ce sont des mesures de gauche. Il a indiqué dans son programme qu'il allait faire le versement des prestations à la source. Ça veut dire que tout ce qui peut aider les plus fragiles à avoir tout de suite, chaque mois, des prestations sociales pour les aider, ça sera fait. Il y a plein de mesures qui sont des mesures sociales. Je crois que la question du clivage gauche-droite aujourd'hui, c'est pas ce qui est le plus fondamental. Ce qu'il faut maintenant, c'est travailler pour une France juste et une France démocratique. C'est à ça qu'il faut vraiment qu'on s'engage et qu'on sorte de ces histoires d'appareils.
Alors, dans ces histoires d'appareils, il y a quand même des législatives qui arrivent et qui vont déterminer si oui ou non Emmanuel Macron aura une majorité présidentielle pour gouverner. Je voyais justement que des députés macronistes s'inquiètent du risque que représenterait une gauche unie, justement, derrière Jean-Luc Mélenchon pour ces législatives. Elle n'est pas acquise, la majorité, pour Emmanuel Macron.
Moi, je suis triste de voir que le Parti Socialiste, qui est un parti, le parti de la réforme, Jaurès disait aller à l'idéal, comprendre le réel, se soit rangé derrière un Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui n'entretient plus aucun lien, aucune filiation avec ce qu'est la social-démocratie. et avec ce qu'elle représente en termes de pluralisme des idées et surtout sur la République. Donc je considère aujourd'hui que ce score de Jean-Luc Mélenchon ne remettrait pas en question, ne remettrait pas en question, à mon avis, la possibilité du président de la République de gagner très largement.
Merci, merci Juliette Méadel d'être venue nous voir, cofondatrice de Fédération Progressiste Mouvement, qui fait partie du coup maintenant du camp présidentiel d'Emmanuel Macron, l'aile gauche en quelque sorte des marcheurs. Merci à vous. 22h29 sur Europe 1, un coup d'œil aux unes de la presse. Demain matin, mardi 26 avril, Emmanuel Macron sous pression, titre Libé. Alors on change, le président ayant annoncé hier soir avoir compris que sa victoire ne signifiait pas l'adhésion des électeurs et qu'il allait devoir rassembler une France divisée. Priorité du président réélu pour la Croix, réduire les fractures. Les deux tours de l'élection présidentielle ayant montré une France traversée par des clivages profonds, Emmanuel Macron, écrit la Croix, reste flou sur sa méthode pour les surmonter. Aujourd'hui en France se projette sur les législatives 2022, avec 8 pages sur les inconnus du troisième tour, et en particulier cette question: quel Premier ministre pour mener la bataille électorale le 2 juin ? Macron peut-il perdre les législatives ? On en parlait il y a un instant, c'est la question à la une de l'opinion. Alors que Jean-Luc Mélenchon rêve d'un match retour aux législatives, eh bien, des députés macronistes s'inquiètent du risque que représenterait une gauche unie derrière le leader insoumis. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Un petit détour rapide par Toulouse-Niort, le TFC qui joue ce soir sa remontée en Ligue 1. Patrick Anselmetti, vous êtes sur place, où en est-on?
Et il reste 7 minutes dans le temps réglementaire et Toulouse mène 2-0. Le deuxième but a été marqué il y a 3 minutes de cela par Onyeu, le japonais, une tête plongeante suite à un centre de Van den Bomen, alors que le premier, lui, a été inscrit par De Jagere, le belge, le capitaine, à la 21e minute. Toulouse qui mène fort logiquement 2-0 et a maintenant moins de 7 minutes de la fin de cette rencontre est bien parti pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine.
Merci Patrick Anselmetti en direct du Stadium de Toulouse pour Europe 1. 22h31, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure maintenant de retrouver la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Heureux de voir le TFC remonter dans la cour des grands.
Très heureux.
Pendant que vous descendez votre fauteuil, vous. Vous êtes en mouvement inverse.
Très heureux de voir le TFC, une grande ville, une grande région de football. Donc voilà, c'est fait.
Pour ainsi dire,
oui, c'est fait. Il reste 6 minutes,
On peut le dire.
Ils sont premiers, ils sont très bien, et c'est une très belle nouvelle pour Toulouse, bien évidemment, et puis pour le Sud-Ouest, ça fait une ville en plus en Ligue 1 l'année
qui
prochaine,
regagne la Ligue 1, exactement.
Et puis c'est une ville vraiment de football, donc...
De rugby aussi.
Et de rugby
mais
aussi.
De football, je vous l'accorde.
Ils sont gâtés, ces Toulousains. Ah, ils sont gâtés, parce qu'en plus, c'est beau là-bas. J'adore cette ville. On les salue, en tout cas, nos amis Toulousains.
Salut aux Toulousains.
Bon, ça va, vous ?
Ça va très bien.
Bon, un bon week-end ?
Un très bon week-end. Civique, en tout cas.
Oui.
À l'écoute. À l'écoute de l'actualité politique, bien sûr.
Et des résultats.
Et du résultat.
Voilà. Ça, c'est fait.
Bon, c'est fait.
Quoique, bon, on en a...
On a les législatives, on en parlait avec Juliette Méadel. On a encore un riche printemps politique qui nous attend.
On a un riche printemps et une échéance aussi importante, finalement, que la présidentielle, me semble-t-il.
Ce qui donnera à Emmanuel Macron une majorité ou non pour gouverner, donc effectivement.
Oui, donc ça va être encore passionnant. Quel métier passionnant vous faites. On vous retrouve tout à l'heure,
à 23h,
pour un point sur l'info. À tout à l'heure.